Chapitre 2. Ce chapitre s'ouvre sur une autre œuvre de puissance qui s'accomplit dans une maison particulière quand, après un certain temps, le Seigneur se trouve à nouveau à Capernaum. Ce qui apparaît ici, c'est une foi caractérisée par la ténacité et, ce qui est assez remarquable, ce n'est pas celui qui souffre qui fait preuve d'une telle foi, mais ses amis. Le Seigneur est en train de prêcher à nouveau la parole. C'est là son service avant tout. Son travail de guérison ne s'exerce que lorsque l'occasion se présente. Les quatre amis ont cette sorte de foi qui se rit des impossibilités, qui dit « Cela se fera, et Jésus le voit ». Il s'occupe tout de suite du côté spirituel des choses, accordant le pardon des péchés aux paralytiques. Pour les scribes raisonneurs qui sont présents, ce n'est que blasphème. Il est bien certain qu'ils avaient raison en pensant que personne, sinon Dieu, ne peut pardonner les péchés. Mais ils se trompent entièrement en ne discernant pas que Dieu est présent au milieu d'eux, et qu'il parle dans le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est sur la terre, et sur la terre il a le pouvoir de pardonner les péchés. Cependant, le pardon des péchés n'est pas quelque chose qui est visible aux yeux des hommes. Il faut qu'il soit accepté par la foi dans la parole de Dieu. La guérison instantanée d'un cas grave d'infirmité corporelle est visible aux yeux des hommes, et le Seigneur accomplit ensuite ce miracle. Ceux qui sont là ne peuvent pas plus délivrer l'homme de la maladie qui le tient prisonnier qu'ils ne peuvent pardonner ses péchés. Jésus peut faire les deux choses avec une égale facilité. C'est ce qu'il fait, présentant le miracle accompli dans le corps comme preuve du miracle qui concerne l'âme. Ainsi, il met les choses en bon ordre. Le miracle d'ordre spirituel vient en premier lieu, celui qui concerne le corps ne vient qu'après. Ici encore, le miracle est instantané et complet. L'homme qui avait été complètement impotent se lève immédiatement, prend son lit et sort en présence de tous, d'une manière qui fait rendre gloire à Dieu par toutes les lèvres. Le Seigneur commande, et l'homme n'a qu'à obéir. Car la possibilité de le faire lui est donnée en même temps qu'il reçoit le commandement du Seigneur. Cette circonstance qui souligne le but spirituel du service qu'accomplissait notre Seigneur est suivie de l'appel de Lévi, qui nous est connu par la suite comme étant Matthieu le publicain. L'appel de cet homme à suivre le Maître nous montre la puissante attraction de la parole de notre Seigneur. C'était une chose que d'appeler d'humbles pêcheurs à quitter leur filet et leur dur labeur. C'en était une autre, d'appeler un homme qui avait de la fortune et la tâche agréable de faire rentrer l'argent. Mais Jésus le fait avec deux mots. « Suis-moi ». Deux mots qui tombent dans l'oreille de Lévi avec une telle force qu'il se lève et le suit. Dieu veuille que nous sentions la puissance de ces deux mots dans notre cœur. Quel merveilleux aperçu nous a été accordé du serviteur de Dieu, de sa promptitude, de son autorité, de sa puissance, de sa dépendance, de sa consécration, de ses compassions, de son refus de ce qui est superficiel et démagogique, pour s'attacher à ce qui est spirituel et qui demeure, et finalement des puissants attraits de sa personne. S'étant levé pour suivre le Seigneur, Lévi montre bien vite qu'il est devenu disciple d'une manière pratique. Il reçoit son nouveau maître dans sa maison en même temps qu'un grand nombre de publicains et de pécheurs, manifestant par là quelque chose de l'esprit du maître. Lui qui était assis au bureau de recette fait montre maintenant de libéralité afin que d'autres puissent s'asseoir à sa table. Il se met à accomplir cette parole, il répand, il donne aux pauvres. Psaume 112, verset 9. Et cela sans qu'on lui dise de le faire. Il a commencé à exercer l'hospitalité envers ceux de son entourage, afin qu'eux aussi rencontrent celui qui a gagné son cœur. En cela, il est un excellent modèle pour nous. Il a commencé par se dépenser pour les autres. Il a fait la chose qui était le plus à sa portée. Il a rassemblé, pour qu'il rencontre le Seigneur, ceux qui avaient des besoins et qui le savaient, plutôt que ceux qui étaient contents d'eux-mêmes dans leurs pratiques religieuses. Il a découvert que Jésus est un donateur qui cherche ceux qui sont disposés à recevoir. Tout ceci est observé par les scribes et les pharisiens propres justes qui expriment leur désapprobation sous la forme d'une question posée aux disciples de Jésus. Pourquoi Jésus fréquente-t-il des gens aussi vils, aussi dégradés? Les disciples n'ont pas à répondre, car le Seigneur lui-même répond à ces attaques. Sa réponse est complète et satisfaisante, et elle est presque passée en proverbe. Ceux qui se portent mal ont besoin de médecins, et les pécheurs ont besoin du Sauveur. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs qu'il est venu appeler. Peut-être les scribes et les pharisiens étaient-ils bien versés dans la loi, mais ils ne comprenaient rien à la grâce. Or Jésus était le serviteur de la grâce de Dieu. Et Lévi avait saisi quelque chose de cela. Et nous, bien plus que Lévi, nous devrions saisir cela dans la mesure où nous vivons au moment où le jour de la grâce a atteint son plein midi. Cependant, il peut nous arriver d'avoir quelque ressentiment contre Dieu parce qu'il est si bon envers des gens que nous aimerions dénoncer comme coupables. C'est ce que fit Jonas dans le cas des habitants de Ninive et ce que faisaient les pharisiens pour les pécheurs. Le grand serviteur de la grâce de Dieu est à la disposition de ceux qui ont besoin de lui. La circonstance suivante, versets 18 à 22, montre les contradicteurs encore à l'œuvre. Il s'était plaint du maître aux disciples, et maintenant, c'est des disciples qu'ils se plaignent au maître. Évidemment, il manque de courage pour dire les choses en face. Cette façon détournée de critiquer est très courante. Rejetons-la. Dans les deux cas, les disciples n'ont rien eu à répondre. Quand les pharisiens ont soutenu le caractère exclusif de la loi, c'est Jésus qui s'est opposé à eux, en faisant valoir le caractère libéral de la grâce, et c'est Jésus qui les a réduits au silence. Maintenant, ils veulent mettre sur les disciples le joug de la loi, et, avec force, Jésus revendique la liberté de la grâce. La parabole, ou l'image dont il se sert, implique de façon évidente que lui est l'époux, la personne importante au centre de tout. Sa présence gouverne tout et apporte une merveilleuse abondance. Bientôt il sera absent, et alors seulement il conviendra de jeûner. Notons cela, car nous sommes en un temps où jeûner est une chose qui convient. Depuis longtemps l'époux est absent, et nous l'attendons. Au moment où le Seigneur parlait, les disciples étaient dans la position d'un résidu pur en Israël, recevant le Messie à sa venue. Après la Pentecôte, ils ont été baptisés en un seul corps et ont été établis comme fondement de cette cité qui est appelée l'épouse, la femme de l'agneau, en Apocalypse 21, verset 9. À ce moment-là, ils avaient la place d'épouse plutôt que celle de fils de la chambre nuptiale. Cette position, c'est la nôtre aujourd'hui. Cela ne fait que rendre encore plus clair qu'il ne nous convient pas de festoyer, mais de jeûner. Jeûner, c'est s'abstenir des choses légitimes pour être davantage consacré à Dieu et pas simplement s'abstenir de nourriture pendant un certain temps. Les pharisiens ne pensaient qu'à maintenir intacte la loi. Le danger pour les disciples, comme les événements l'ont prouvé par la suite, n'était pas tellement cela, mais plutôt d'essayer de mélanger le judaïsme à la grâce qu'apportait le Seigneur Jésus. Le système légal était comme un vieil habit ou une vieille outre. Jésus apportait ce qui ressemblait à un solide morceau de drap neuf ou à du vin nouveau avec son pouvoir d'expansion. Dans les actes, nous pouvons voir comment les vieilles formes extérieures de la loi ont cédé devant la puissance débordante de l'Évangile. En vérité, nous voyons cela dans l'incident qui suit immédiatement et qui termine le chapitre 2. De nouveau, les pharisiens viennent se plaindre des disciples au maître. Maintenant, ils sont coupables de ne pas conformer leurs activités à la vieille outre qu'étaient certaines prescriptions concernant le sabbat. Les pharisiens poussaient leur respect du sabbat si loin qu'ils condamnaient même le fait qu'on froisse des épis de blé dans la main, comme s'il s'agissait d'actionner un moulin. Ils soutenaient une interprétation très rigide de la loi dans ces questions mineures. Ils étaient de ceux qui observaient la loi avec un soin méticuleux, tandis qu'ils considéraient les disciples comme peu zélés. Le Seigneur reçoit leur plainte et défend ses disciples en rappelant aux pharisiens deux choses. Premièrement, ils auraient dû connaître les Écritures, qui rapportent comment il était arrivé à David de se nourrir, lui et ceux qui le suivaient, dans une situation critique, ce qui normalement n'était pas selon la loi, avait été permis en un jour où les choses n'étaient pas normales en Israël, à cause du rejet du roi légitime. 1 Samuel 21 nous en parle. À nouveau, les choses ne sont pas normales, et le roi légitime va être rejeté. Dans les deux cas, les besoins concernant loin du Seigneur devaient être considérés comme plus importants que des détails qui se rapportaient aux exigences cérémonielles de la loi. Deuxièmement, le sabbat a été institué pour l'homme et non l'inverse. Donc, l'homme passe avant le sabbat, et le Fils de l'homme, qui a sous son autorité tous les hommes, selon le psaume 8, doit nécessairement être le Seigneur du sabbat, et, en conséquence, il est habilité à en disposer selon sa volonté. Qui étaient les pharisiens pour contester son droit de le faire, même si Jésus était venu parmi les hommes sous la forme d'un serviteur? Le Seigneur du sabbat était parmi les hommes et on le rejetait. Dans ces circonstances, les préoccupations de ceux qui étaient étroitement attachés au respect de la loi cérémonielle étaient déplacées. Leurs outres étaient vieilles et incapables de contenir la grâce débordante et l'autorité du Seigneur. L'outre de leur sabbat se perce devant leurs yeux mêmes.